Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All you little ways of a comedy appearance. You fellow with your fellows get cleaned like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You made some dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capulet, you're money, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me, the merchant of Venice.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info. Tout de suite pour vous, le générique. Alors aujourd'hui, on va commencer par un entretien téléphonique avec un responsable de la Maison du Peuple de Saint-Claude dans le Jura.
Ensuite, on va faire un autre entretien téléphonique avec un militant syndical du Vinatier pour nous parler des dernières choses qui sont créées au Vinatier.
Ensuite, on écoutera nos deux invités qui est du collectif de soutien à Pinard-Sélec qui vont nous raconter un peu la lutte actuelle.
On entendra ensuite notre grand reporter parti en Roumanie et qui nous ramène
un reportage de là-bas. Un petit problème de son, excusez-moi.
Le micro n'était pas branché.
Et ensuite, on va parler du boycott d'Israël, bien sûr.
Et puis, une petite victoire face au contrôle de l'État.
Et on terminera par l'agenda. Et tout de suite, on va rejoindre la Maison du Peuple de Saint-Claude dans le Jura.
Oui, alors du coup, la Maison du Peuple de Saint-Claude dans le Jura, en fait, à l'origine, c'est une coopérative ouvrière qui s'appelle La Fraternelle, qui a été créée en 1884. Donc à l'époque, en fait, c'était un lieu où il y avait où il y avait un regroupement d'alimentation, c'était un lieu d'éducation populaire, également une imprimerie et aussi une maison des syndicats. Et en 1910, les locaux ont été donnés à une association qui s'appelle également La Fraternelle. Donc actuellement, cette association, c'est une association culturelle qui s'inscrit dans une dynamique d'éducation populaire et qui rencontre certains soucis. Donc nous avons un direct, Monsieur Jauneau, qui est le directeur de la Maison du Peuple de Saint-Claude, et du coup qu'on a en interview maintenant.
Alors on va tester.
Oui. Est-ce que vous nous entendez?
Allô? Allô? Est-ce que vous nous entendez?
Allô?
Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Canu.
Merci.
Actuellement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que c'est que La Fraternelle pour partager le dynamique?
Alors, La Fraternelle, c'est une association, comme vous venez de le dire, qui a pris la suite d'une coopérative ouvrière qui s'appelait elle aussi La Fraternelle. L'association est née en 1984. Elle gère donc les bâtiments de la Maison du Peuple, qui a été construite en 1910. Et cette association œuvre dans le domaine culturel. Et c'est sa spécificité parce que en fait, elle a quantité de champs d'activités, trois salles de cinéma, un café-concert qui est le café de la Maison du Peuple où il y a une programmation jazz au bistrot depuis plusieurs dizaines d'années avec une programmation fait écouter aussi bien des gens de la scène nationale ou internationale et puis aussi des musiciens en devenir et notamment pas mal de musiciens des collectifs lyonnais actuellement ou des collectifs de Rhône-Alpes. Parallèlement à ça, il y a aussi un atelier, un espace art plastique, donc avec un atelier de sérigraphie, imprimerie, typographie. Cet atelier accueille de très nombreux artistes en résidence et les productions de l'atelier art plastique servent à alimenter l'Artothèque qui existe maintenant depuis 3-4 ans. Donc Artothèque, ça veut dire endroit où les gens, en adhérant à la frat, à la fraternelle, peuvent prendre des œuvres qu'ils accrochent chez eux. Et puis, parallèlement à ça, il y a aussi une activité de diffusion de théâtre, de danse, et puis une activité aussi héritée donc là vraiment de la première coopérative, La Fraternelle, c'est-à-dire un fonds d'archives absolument exceptionnel sur l'histoire du mouvement coopératif. et notamment aussi sur le mouvement de, enfin sur les coopérateurs qui taillaient le diamant, les ouvriers diamantaires qui étaient implantés sur le bassin de Saint-Claude.
D'accord.
Donc ça, c'est un fonds d'archives absolument exceptionnel qui accueille des chercheurs, des historiens, avec tout un processus de numérisation qui a été lancé il y a quelques années. C'est aussi un lieu qui accueille énormément de compagnies en résidence ou en chantier d'été, ce qu'on appelle les chantiers d'été, c'est-à-dire des gens, on met les locaux à disposition, et puis donc les compagnies ou les groupes peuvent venir préparer un spectacle, faire des répétitions, voire enregistrer un CD et qui, pour certains d'ailleurs, après l'enregistrement, il y a production de pochettes de CD avec l'atelier art plastique. Et puis parallèlement à ça, il y a aussi toute une démarche d'éducation artistique. Le mot est peut-être pas très heureux, mais disons qu'on organise quantité de stages, d'ateliers avec l'éducation nationale, avec les centres sociaux, avec les centres de loisirs, avec l'éducation spécialisée, et puis aussi pour tout public, adultes. Voilà, c'est ces missions-là, en fait, qui sont remplies par la FRAT, avec une inscription claire dans le fait, en particulier pour la politique de diffusion, de donner à la population des alentours, de présenter des formes d'expression ou des artistes qui sont peu présents dans les médias. Voilà. Il y a vraiment cette volonté de participer à la diversité, voilà, culturelle, et surtout de donner un lieu pour des artistes qui s'expriment dans des formes, voilà, encore une fois, absentes ou très peu présentes dans les grands médias, disons.
D'accord.
Voilà, en quelques mots. Après, c'est une association qui fonctionnait au départ uniquement sur le bénévolat. Et depuis une petite dizaine d'années, maintenant il y a 10 salariés, il y a 3 projectionnistes, il y a une chargée de la communication, il y a une animatrice du café, il y a la responsable des arts plastiques, il y a un factotum, il y a une assistante à la communication qui s'occupe aussi de l'artothèque, et puis voilà, donc au total on est 10. Et c'est un travail, voilà, collaboratif entre des bénévoles extrêmement efficaces et très très présents, et puis donc une équipe de 10 salariés.
Et en quoi ce lieu, du coup, est actuellement menacé? Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans la dynamique du projet?
Alors je m'excuse, je vous entends très très mal. Oui, je pense, bon, on est menacé, oui, effectivement, l'association est en grande difficulté parce que, la Maison du Peuple, hein, donc c'est au total 7 niveaux, c'est 4000 mètres carrés, avec un théâtre à l'italienne, hein, aussi, un gymnase, une salle d'exposition, un espace qu'on appelle archéologie d'un rêve, qui est consacré donc à ce qu'on appelle l'utopie concrète, hein, ce fantastique mouvement coopératif qui est à l'origine de tout ça. Et c'est des bâtiments donc qui datent de 1910, et il y a eu un énorme programme de rénovation qui était absolument indispensable. Et des travaux pour 2 500 000 euros qui ont été financés en partie sur les fonds de l'association, mais aussi grâce à des soutiens, évidemment, de l'État, des collectivités, de la ville de Saint-Claude, de la Fondation du patrimoine, de Franche-Comté Active. Voilà, mais si vous voulez, le projet coopératif a continué, c'est-à-dire que à l'origine la fraternelle, donc la première la coopérative était tout à fait singulière par rapport aux autres coopératives qui existaient à l'époque, parce que les coopérateurs de l'époque avaient décidé que l'ensemble des bénéfices générés par l'activité de la coopérative ne pouvait pas être partagé entre les coopérateurs, mais devait être réinvesti systématiquement dans les bâtiments et dans... excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Ces bénéfices devaient être réinvestis dans des œuvres, des mutuelles ou des choses comme ça, ou dans les bâtiments.
Et donc l'association
qui a pris la suite a fait la même chose.
Et vous mettez en œuvre du coup des moyens pour essayer du coup de trouver des subventions et pour faire vivre ce lieu, vu que vous êtes en...
Alors après, il y a d'autres raisons à nos difficultés. Il y a effectivement le poids de ces charges liées aux bâtiments, qui sont absolument énormes, mais il y a aussi une baisse d'activité. La région de Saint-Claude, c'est le bout de la vallée de la Plasturgie, après Oyonnax. Donc c'est un bassin qui est très touché par la crise sociale, par la crise économique, et les gens ont moins aussi de moyens, tout simplement, pour aller au cinéma ou pour aller au concert ou pour voir les spectacles qu'on peut présenter. Donc il y a
du coup vous mettez un lieu.
C'est aussi des raisons de nos difficultés.
Excusez-moi, parce que du coup, en fait, on a un timing qui est assez restreint. C'est juste, vous mettez en lien, parce que du coup, il nous reste juste une petite minute. Des pétitions, est-ce que, du coup, apparemment, vous avez aussi, vous m'aviez dit, du coup, des afflux de dons et des soutiens de la part des artistes?
Oui, alors donc on a lancé un appel à soutien qui est sur le site de la Fraternette, www.maisondupeuple.fr. C'est un appel qui actuellement reçoit énormément de signatures. Il y a un appel aussi financier, donc on reçoit actuellement pas mal de dons, et puis on est soutenu très très fortement. On vient de recevoir des messages d'universitaires, du recteur de Franche-Comté, du vice-président de la Ligue de l'enseignement, de toutes sortes d'artistes comme Régine Chopineau ou Andy Hemmler ou Jean-Luc Capozzo ou des auteurs de bandes dessinées, donc il y a un réel soutien qui ce matin on a organisé une conférence de presse, la salle était pleine, il y avait pas mal de presse qui parce qu'en fait la question avant tout au-delà du problème même de la Fraternelle, c'est que en fait ça pose la question de la diffusion de l'action culturelle et artistique en milieu rural.
D'accord.
et d'autres associations sont dans des situations je dirais comparables à celles de la Fraternelle. Donc nous on essaye aussi de au-delà de défendre notre association ou ses actions, la question fondamentale est aussi d'essayer de poser la question de la diffusion et d'action culturelle en milieu rural.
Eh ben, je vous remercie beaucoup. Du coup, si des auditeurs sont motivés du coup pour un soutien, je pense que du coup on peut aller sur. Vous avez un site sur lequel du coup on
oui,
peut.
Oui, le site c'est www.maisondupeuple.fr. Maison du Peuple tout attaché.
D'accord. Et ben écoutez, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez passé avec nous. Et puis, écoutez, si vous avez l'occasion d'écouter le restant de l'émission, voilà.
Écoutez, je vous remercie énormément au nom de tous les salariés et tous les bénévoles de la FRAT. Et puis, juste un dernier mot, Saint-Claude, c'est à 1h30 de voiture de Lyon. Venez visiter la Maison du Peuple. Il y a des visites guidées organisées très très régulièrement, deux fois par semaine pendant les vacances scolaires, le mardi et le samedi. Et venez au concert, venez partager avec nous.
Eh bien, on n'y manquera pas. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet entretien.
Merci.
Merci, au revoir.
Alors, pour continuer l'Info Canu, on a la chance d'avoir avec nous dans nos studios deux militants du comité de soutien lyonnais à Pinard-Sélec. Et on va donc parler un tout petit peu de Pinard-Sélec et surtout de l'action qui va être menée, notamment le dimanche 22 novembre au Périscope. Alors d'abord, je vais vous demander si c'est possible de nous présenter rapidement Pinard Selec, dont on a déjà parlé dans ce Canu Info.
Alors, Pinard Selec, c'est une sociologue et c'est une militante. Et son travail de recherche est intimement lié à son activité de militante aussi. C'est-à-dire qu'elle travaille sur les rapports de domination. Et à la fois dans son travail et dans son action militante, elle interroge ces rapports de domination partout dans la société. Ce qui fait que ce qu'elle essaye de faire comprendre, ce qu'elle interroge, c'est la façon dont toutes les chapitres de la société s'articulent, en fait. Et que si on s'intéresse à l'écologie, on s'intéresse aussi forcément au féminisme. Si on s'intéresse au féminisme, on va s'interroger sur les questions de nos violences, etc. Donc, nous avons intitulé cette manifestation du 22 novembre au Périscope articuler les luttes, déborder les frontières.
D'accord. Alors, petite présentation que vous venez de faire donc de Pinard Selec, et des combats qu'elle mène et ce sur quoi elle travaille. Pourquoi y a-t-il un comité de soutien, peut-être très rapidement là aussi? Pourquoi y a-t-il besoin à Lyon et ailleurs de comité de soutien pour Pinard Selec?
Le comité de soutien a été créé en 2013, non 2014, je pense.
À Lyon, il a été créé en 2014 quand Pinard Selec a été faite docteur honoris causa à l'ENS. Mais en fait, il y a des comités de soutien partout en France, il y en a en Allemagne aussi, puisque Pinard Selec a commencé, elle s'est exilée en 2009, et elle a d'abord reçu une bourse du PEN Club des écrivains en exil. Parce qu'il y a un procès qui dure depuis 17 ans
en Turquie,
l'État turc s'acharne contre Pinard Selec, l'accusant d'avoir participé à un attentat au cœur du marché aux épices qui a fait des morts.
La fin des années 90, donc.
Voilà, en 98. Elle était à ce moment-là en train de travailler sur la question kurde. Elle avait fait une interview d'un certain nombre de militants kurdes. Et donc, on a profité de l'occasion pour l'arrêter, l'accuser justement d'avoir participé à cet attentat. Elle a été emprisonnée pendant 2 ans et demi, elle a été torturée, on a essayé de lui arracher les noms des personnes qu'elle avait interviewées, elle ne les a pas donnés. Voilà. Et depuis, donc, il y a eu 4 procès. 4 procès. À chaque fois, elle est acquittée. À chaque fois, le procureur de la République turque fait appel. Et on en est là, à l'issue du 4e procès qui a eu lieu le 19 décembre 2014, où nous étions tous les deux. Elle a été acquittée. Et 24 heures après, le procureur de la République turque a fait appel. Et on est dans l'attente donc de la décision, cette fois, de la Cour suprême.
Donc l'affaire n'est pas terminée.
L'affaire n'est pas terminée. On a besoin du soutien de tous, de l'attention de tous. On a besoin que tous, nous ne regardions pas ailleurs, qui est le titre d'un petit texte que j'ai écrit qui raconte ce procès du 19 décembre et qui en même temps retrace tous les procès, retrace toute cette épopée tragique. Et les combats de Pinard Selec.
Et donc actuellement, Pinard Selec vit en France. Oui. Elle est réfugiée, chercheuse par ailleurs. Vous avez rappelé les thématiques de recherche. Et vous me disiez avant l'émission que votre volonté, vous, comité de soutien à Pinard Selec, c'est de peut-être pas trop centrer sur l'action que vous menez le 22 novembre et la journée que vous menez sur la personnalité de Pinard Selec, mais plutôt sur les combats qu'elle mène. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui va se passer donc le 22 novembre à Lyon et notamment au Périscope?
Tout à fait. Donc ça sera un forum qui commence à 15h et dure jusqu'à 21h avec la conclusion de Pinard Selec. Donc on commence avec une lecture au spectacle par Anne qui est à côté de moi et il y aura une table ronde, il y aura un forum.
Alors justement, vu qu'on a Anne ici, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce dont tu vas parler dans ta lecture?
Alors, la lecture, c'est la lecture d'un texte que j'ai fait, que je revendique comme étant un récit et des impressions. C'est-à-dire que je me laisse aller à une dimension littéraire, c'est pas un récit journalistique, hein. C'est un récit dans lequel je fais rentrer aussi de l'émotion, un peu de poésie, et dans lequel il y a un fil narratif où on va et vient entre le présent et le passé, le présent de cette journée du 19 décembre, donc la journée du procès à Istanbul, et puis tout ce qui la précède et qui se termine vers ce qui va suivre. Donc je ne ferai pas la lecture de l'intégralité du spectacle, mais ça durera quand même 50 du texte, pardon, mais ça durera quand même 50 minutes. Donc pour savoir vraiment tout ce qu'il y a dans le texte, il faut acheter cette petite brochure qui est en vente 6 €. Pour soutenir. Alors on pourra la trouver le 22 décembre au Périscope lors de cette journée. Et si vraiment vous pouvez pas y aller, eh ben il faut essayer de glaner des informations sur le site pinardselec.fr.
Très bien. Et alors ensuite à 16h30, je t'ai coupé, table ronde.
Il y aura aussi une table ronde. On sera 4 à intervenir, 4 militants de Turquie, de Kurdistan, de Syrie, d'Arménie. Nous sommes 3 d'être d'origine arménienne. Il y a aussi donc je vais présenter un peu les intervenantes. Donc ça sera Nisrin Al-Zaleh, qui est une militante en Syrie,
Elle est linguiste. Hein. Elle a fait sa thèse à Paris. Puis qu'elle a eu quand même avec les félicitations du jury, et puis elle a enseigné à l'université de Homs, puis à l'université de Damas, et elle est réfugiée en France depuis 1 an.
Il y a aussi Sibyl Çekmen, qui est une Arménienne en Turquie, de Turquie en tout cas, qui a travaillé comme attachée parlementaire du député arménien de HDP aux élections de juin qui vient de se passer. Il y aura aussi Narot Tufekci, qui est militante arménienne, toujours étudiante en management actuellement en France, bien évidemment, quand on sera en forme. Et il y aura aussi moi. Donc nous sommes toutes des militantes. Donc nous allons parler de la situation actuelle qui s'est installée maintenant autour de la Turquie, donc la Syrie, le Kurdistan, ici l'Arménie. Donc comment ça touche des différents pays, comment les luttes s'articulent, comment il y a des luttes sociales qui émergent dans des différentes sociétés, qui étaient déjà là mais qui émergent d'une autre manière, qui se croisent avec d'autres luttes, mais aussi la position de la France dans tout ça, parce que c'est un conflit régional qui touche la France, notamment tout ce qui est intervention militaire, tout ce qui est le combat contre le Daesh, tout ce qui est aussi les forces, les territoires de Kurdistan syrien. Et comment ça touche aussi à l'Arménie, parce qu'il y a aussi il y a différents joueurs, comment ça s'articule, parce que l'Arménie elle a aussi des relations assez importantes avec la Russie, donc la Russie un autre joueur dans ce conflit, donc on parlera de tout ça.
Et comment tout ça s'articule, hein, ça sera le maître mot. Et c'est quand même une manifestation qui se passe pendant la semaine de la solidarité internationale. Et on interroge aussi cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'être solidaire ? Et je crois que là, la situation internationale nous montre qu'on ne peut pas ne pas être solidaire. On ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe ailleurs.
D'accord, très bien. Temps suivant donc de cette journée, inventer la politique malgré la violence extrême avec d'intervention.
Oui, avec le MAN, qui est Mouvement pour des alternatives non violentes, donc ce qui va réfléchir à comment on peut intervenir dans les pays qui sont en conflit sans être soi-même dans une dynamique de la violence. Et voilà. Et il y a des petites pauses aussi, parce qu'il y aura un bar et qu'on pourra boire, qu'on pourra grignoter.
Et il y aura un concert.
Et ça se termine en fête, voilà. Donc
en fête.
Concert.
Voilà. En fiesta.
Avec
Faik Serdag, qui est un musicien, chanteur stambouliote, que la scène lyonnaise rock, folk connaît bien, parce que c'était Fek Auditi. Et maintenant, il chante tout seul. Et il sera accompagné d'un jeune chanteur avec une voix magnifique qui s'appelle Hector Boer. Et oui, parce que donc ça s'appelle Forum Festin Fiesta. C'est qu'on a envie d'être à la fois dans une attitude réflexive, se poser des questions, mais on a aussi envie d'être ensemble et de se dire que d'être ensemble, c'est déjà un premier pas aussi vers cette solidarité, et de le faire aussi dans la joie et dans la bonne humeur.
Et donc après le concert, Pinar Selleck elle-même, a priori, viendra pour clôturer la soirée.
Voilà, pour clôturer la soirée, ça sera peut-être même au milieu du concert, parce que voilà. Ce qui est intéressant dans ce collectif aussi, c'est que ça réunit des gens de tous les horizons. Et que ça fait se rencontrer des gens. Hein. C'est vrai qu'autour des différentes luttes que fédère Pinar Selleck, il y a plein de gens d'horizons très différents qui se rencontrent. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et j'espère que ce bonheur se partagera avec beaucoup de gens le 22 novembre.
Alors, on rappelle justement, ça aura lieu le dimanche 22 novembre à partir de 15h au Périscope. Le Périscope, c'est une salle de concert qui est derrière Perrache, à côté de l'ancienne prison devenue université catholique.
13 rue Delandine, métro Perrache ou avec le tram, si on peut y aller.
Voilà, bah en tout cas, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et on enchaîne sur l'info.
Eh oui, alors l'info qui suit, c'est qu'on a lu hier dans le Progrès, on est tombé sur un article dans le Progrès qui annonçait qu'un nouveau service d'urgence psychiatrique allait ouvrir au Vinatier. C'était un article qui présentait ça comme une espèce de super vitrine. Ça allait améliorer la prise en charge des patients, des postes allaient être ouverts, 14 lits pour accueillir les personnes seraient ouverts. Et après, on a trouvé quand même qu'il y avait des choses bizarres là-dedans. Enfin, déjà 14 places pour qui ? Apparemment, dans le Progrès, ils disent que ce serait pour toute la métropole et le Nouveau-Rhône, ce qui nous semblait un petit peu beaucoup. Et puis aussi que les gens seraient là-bas que pour 24 heures, après seraient orientés dans d'autres secteurs, etc., etc. Et aussi une information comme quoi il n'y avait pas de médecin psychiatre encore dans ce service qui voulait y aller. Et donc, pour éclaircir la situation, on vous propose de discuter avec Mathieu, qui est un militant syndical de la CGT Vinatier. Tu nous entends, Mathieu ?
Allô ?
Ouais,
bonjour, ouais.
Et du coup, bah moi, je viens juste de dire qu'on avait trouvé cette info dans le Progrès, hein, comme quoi un nouveau service existait au Vinatier et que ça ressemblait un petit peu à un service modèle, à un service vitrine. On voulait savoir le point de vue des gens qui travaillent et qui militent au Vinatier.
Bah, en gros, ce service, c'est un petit peu une espèce de vitrine, on va dire, au niveau de l'Agence régionale de santé et puis du Vinatier. C'est qu'en gros, c'est un vieux projet. Hein. C'est un projet qui existe depuis plusieurs années, qui normalement devait voir le jour plutôt d'ici 2018-2019, et qui a été parachuté comme ça d'un seul coup. On allait devoir, enfin nous, on a été avertis par exemple à la fin de l'année, là, de l'année scolaire, donc, au niveau du mois de juin, qu'en septembre, une nouvelle unité, donc du coup d'urgence, allait ouvrir. Donc cette unité, voilà, elle va compter 11 lits d'urgence qui devraient accueillir du coup tous les patients qui relèveraient de la psychiatrie au niveau de la métropole et du département du Rhône. Donc il faut savoir quand même que ces 11 lits, ils rentrent un petit peu dans un contexte de crise hein, au niveau de la santé en général et plus particulièrement de la psychiatrie, hein, c'est qu'il y a un très gros manque de moyens, que ce soit au niveau justement de l'hospitalisation, donc des lits classiques d'hospitalisation, et de tout ce qui est un petit peu le suivi ambulatoire dans la cité, avec les centres médico-psychologiques, qui sont complètement dépassés par les événements. Et la solution qu'on nous propose, la solution miracle, c'est de créer ces urgences.
Et du coup, justement, quand tu nous dis que ça s'inscrit dans un contexte de crise, c'est qu'il y a eu des fermetures de lits avant la création de ces urgences, il n'y a pas très longtemps, non ?
Alors voilà, oui, il y a eu en 2013 sur le Vinatier, par exemple, on a fermé 40 lits d'hospitalisation classique, hein, alors que, par exemple, la demande de soins augmentait. Hein, pour juste donner un petit exemple facile, c'est qu'au niveau du suivi du Vinatier en 2009, on suivait 22 000 personnes. En 2014, on suivait 24 000 personnes. Donc du coup, la réponse à ça qu'on a eue, c'est on ferme des unités, on ferme des lits, ce qui a créé une saturation complète au niveau de l'offre de soins. Hein. On avait par exemple un service d'accueil qui accueillait les gens qui devaient venir que du Vinatier et ils se sont retrouvés complètement dépassés. Hein. Ils se sont retrouvés complètement dépassés par les événements. Il y a eu énormément d'accidents en très peu de temps. Enfin, du coup, c'est des familles. C'est des patients qui se retrouvent complètement démunis, face à un événement de leur vie, face à la maladie, et qui, enfin, ils doivent par exemple attendre des fois 3 mois pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre. Si c'est des enfants, c'est encore pire. Hein. Si c'est des enfants, au niveau de la psychiatrie, au niveau de la pédopsychiatrie, c'est 1 an d'attente. Et c'est tous des secteurs, c'est ce qu'on nous on appelle des secteurs classiques, hein, c'est-à-dire développer l'ambulatoire, développer l'hospitalisation, s'il y en a besoin, hein, bien sûr s'il y en a besoin, mais là le problème c'est que vraiment il y en a besoin. C'est tous des secteurs qui sont complètement délaissés par les pouvoirs publics, et les seules réponses qu'on a, c'est voilà des réponses comme des urgences qui en soi pourraient être une bonne chose, hein, que les patients qui souffrent de maladies psychiatriques puissent avoir des urgences spécifiques à leur maladie, à leur souffrance. Oui, ça peut être une bonne chose en soi, sauf que vraiment, ça a été présenté comme un truc tape à l'œil. Par exemple, elle devait ouvrir normalement cette unité le 21 septembre, sauf que les syndicats se sont positionnés contre cette ouverture, les médecins se sont positionnés contre cette ouverture, parce qu'il n'y avait pas de médecins qui portaient le projet. Le projet était uniquement porté par la direction et l'ARS. Il n'y avait pas de projet écrit, de réunions qui avaient eu lieu entre les professionnels qui allaient y travailler. En gros, on nous disait, voilà, ça ouvre, les gens vont rester 24 heures, il y a tant de médecins, tant de soignants, et puis tout va aller bien.
Et du coup, voilà, excuse-moi, l'ARS, juste pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas trop le secteur du
super
son.
Mal.
Ah, ouais, tu m'entends, c'est bon?
Ouais, c'est bon, ouais.
Je voulais juste préciser que l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé qui finance tout ce qui est hospitalier.
Oui, c'est ça, oui.
Et du coup, quand tu disais que du coup, là, tu dis le projet, il est arrivé sans concertation avec les gens qui bossent, c'est ce qui explique aussi, selon vous, le fait qu'il n'y ait pas de médecin encore attitré maintenant?
Alors voilà, elle va ouvrir. En gros, cette unité, elle va ouvrir avec 3 postes de médecins qui ne seront pas pourvus. Donc, en gros, il y en aura 2 sur 5 qui vont devoir assurer la permanence. Il y avait un médecin qui s'était proposé pour prendre justement le projet à bras-le-corps, essayer de le monter avec le délai qu'on avait eu supplémentaire d'un mois et demi au niveau justement de l'ARS qui nous avait donné un mois et demi pour pouvoir monter le projet. Mais voilà, tout est fait dans l'urgence. Sauf que ce médecin avait des exigences, c'est qu'il ne voulait pas l'ouvrir sans qu'il y ait un minimum de recrutement de médecins et sans que le projet vraiment médical de cette unité soit vraiment écrit. Ça n'a pas été le cas, donc du coup, ce médecin a dit non, je ne le prends pas. Et quelqu'un était un petit peu parachuté qui va faire pour faire l'intérim un petit peu pour que les choses s'ouvrent et que ça fasse joli.
Et du coup, là, les gens qui vont bosser, qui vont occuper ces postes de médecins, ils vont venir d'où? Enfin, en attendant que des gens les prennent vraiment?
Alors là, j'ai rien entendu du tout.
Ah, les gens qui vont prendre les postes de médecins, là, en attendant qu'il y ait des gens qui soient vraiment en poste, c'est qui? Ils viennent, alors, ils sont détachés
En gros, c'est ça. Ils ont mis en place, en fait, un espèce de système de secours où en gros ça va être les médecins volontaires qui exercent déjà dans les autres unités de l'hôpital ou dans les centres médico-psychologiques ou les hôpitaux de jour qui vont venir sur certaines tranches horaires remplacer les vides. Sauf que quand ils vont être sur ces tranches horaires, ils seront pas là où ils travaillent actuellement, donc ça va créer un vide sur tout le reste. Après, c'est un petit peu ce qu'on voit, hein, de toute façon, c'est que depuis plusieurs années, au niveau de la psychiatrie, il n'y a que certains projets qui vont être portés, et mis en avant, mais c'est un petit peu que des projets trompe-l'œil, des projets un petit peu tapageurs, limite du populisme, où on va ouvrir, par exemple, on ferme des unités de vie pour toute la population, par contre, on va ouvrir un hôpital prison pour que les gens ils se disent oui, la psychiatrie c'est dangereux, les patients ils peuvent être dangereux, il faut qu'il y ait des lieux de sécurité. Donc voilà, on ouvre un hôpital prison, ça fait joli, ça fait bien, tout le monde est content. On ouvre une unité de maladie difficile, donc pareil, c'est une unité fermée, très stricte. Mais par contre, pour tout ce qui pourrait empêcher que des malades arrivent en prison, que des malades aient besoin d'unités très très protégées, c'est-à-dire de la prévention, c'est recevoir les gens quand ils en ont besoin, c'est faire un suivi toutes les semaines s'il y en a besoin, et pas que je te vois une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, et puis que la situation elle explose. Et puis ça, on le voit sur le terrain, il y a des trucs très concrets. Par exemple, avant 2009, quelqu'un qui arrivait à l'hôpital, en moyenne, il restait une 60aine de jours. Aujourd'hui, on en est presque à 70.
Mmh. Ouais, enfin, c'est ça le paradoxe, c'est que d'un côté, il y a une critique de l'enfermement qui est portée par des gens de bonne volonté, hein, qui veulent lutter contre cet enfermement hospitalier, et qu'elle est reprise en fait par les décideurs politiques juste pour arrêter de financer l'hôpital et qui va détruire l'accueil qui peut avoir besoin pour certaines personnes.
On va utiliser justement ce mouvement qui est né quand même en psychiatrie de l'après-guerre, de dire il faut ouvrir les asiles, les fous, comme on appelle ça à l'époque, n'ont pas à être enfermés, ils peuvent faire partie de la cité. On va utiliser toute cette pensée qui a quand même marqué la psychiatrie française pendant plusieurs décennies. Et depuis à peu près fin des années 90, milieu des années 90, les pouvoirs publics, dans un but purement économique, vont utiliser cet argument pour dire on est contre l'hospitalocentrisme, on va fermer des unités, on va fermer des lits. Voilà, c'est pour que les gens ils soient pas enfermés à l'hôpital. Mais l'hôpital en soi, il n'est pas là pour enfermer les gens, au contraire. Si on n'avait pas besoin de lits d'hospitalisation parce que on pouvait faire le travail correctement de suivi, tout le boulot qui devrait se faire en ambulatoire, qui n'est pas possible à l'heure actuelle parce que tout le monde est complètement débordé. Enfin, c'est vraiment prendre le problème à l'envers. On le voit très bien avec ce projet, hein, des urgences, où ce projet, il souffre sans qu'il y ait de projet écrit, sans qu'il y ait de médecin derrière, sans qu'il y ait rien du tout. Enfin, on veut faire bonne figure, alors qu'on regarde dans la Drôme, il y a des unités qui vont fermer. À Vienne, il ne va plus y avoir de psychiatrie. À Vienne, toutes les unités de psychiatrie vont être fermées et vont être rapatriées à Bourgoin-Jallieu. C'est pareil en Savoie, en Haute-Savoie. Dans la Loire, c'est carrément le gros bordel. Il n'y a plus du tout d'offres de soins. Il y a des secteurs où il n'y a plus du tout de centre médico-psychologique parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus personne. Donc les gens, ils doivent faire 40 bornes pour aller se faire soigner, pour aller à un rendez-vous. Enfin voilà, c'est vraiment de la peau de chagrin. Et puis à côté de ça, on a des belles unités qui vont s'ouvrir et qui devraient régler soi-disant tous les problèmes. Mais on ne soigne pas les gens en urgence. Enfin, les gens, on les soigne quand ils en ont besoin, quoi. C'est bien avant l'urgence.
Et du coup, peut-être juste rapidement, si tu peux nous rappeler, parce que là, tu as parlé tout à l'heure d'accidents qui étaient survenus au Vinatier. C'est souvent relayé comme étant des accidents, mais il y a... Quel est le contexte en fait de survenue de ces accidents-là aussi? Est-ce qu'on doit vraiment parler en deux mots d'accident pour ce qui s'est passé les dernières années au Vinatier, en tout cas l'année dernière?
Alors au niveau des accidents au Vinatier, on a eu un début d'année quand même 2015 qui a été assez sombre avec un collègue qui s'est fait poignarder, des suicides. Et tout ça rentre un petit peu, c'est un petit peu le cercle vicieux, quoi. C'est vraiment les gens qui arrivent à l'hôpital, arrivent dans un état de souffrance psychique telle qu'ils sont complètement... Enfin, je vais parler un petit peu comme ça, ils sont complètement explosés. Ils sont complètement explosés. Du coup, le fait d'être dans cet état, ça amène obligatoirement de l'agitation, de l'agressivité, et que les équipes, on n'est plus capable. On n'est plus capable de faire face à ça. On n'est plus... Comment on peut répondre à ça? Enfin, vous arrivez dans un tel état, oui, mais le problème, c'est qu'avant, les gens, ils n'ont pas pu faire leur travail correctement. Et à côté de ça, on a un directeur, quand même, je pense qu'il faut que je le nomme, hein, c'est assez important, M. Hubert Meunier, qui a une politique dans notre hôpital, vraiment de la terreur. Hein, c'est tu me suis ou t'es viré. C'est pareil qu'on soit médecin, qu'on soit infirmier, qu'on soit aide-soignant, et qui, au niveau de la sécurité de ses agents... Enfin, il a un mépris total de la sécurité des personnels. On a un système, normalement, dans tous les hôpitaux psychiatriques, on a ce qu'on appelle un système d'appel d'urgence qui permet, en cas de problème, quel qu'il soit, d'appeler les collègues très rapidement pour intervenir vite. Que ce soit, justement, une tentative de suicide, que ce soit une agitation. Et c'est un système qui ne marche que notre directeur a arrêté il y a plus d'un an, parce qu'il fonctionnait pas correctement, hein, et qu'il a délibérément choisi de ne pas remplacer. Et on a appris récemment d'ailleurs de ses dires qu'il a choisi de ne pas le remplacer parce que cela a coûté 300 000 euros pour l'hôpital. Donc voilà, il faut savoir quand même que sur l'hôpital, il y a 2500 salariés. Donc pour lui, 300 000 euros pour la sécurité de 2500 salariés, c'est pas important. Et pour les patients aussi, hein, parce que quand même, quand il y a une tentative de suicide, de pouvoir appeler très rapidement les collègues pour qu'ils viennent donner un coup de main, soutenir la personne. Enfin, le suicide qu'on avait eu en début d'année où la personne est décédée, si la personne avait pu appeler ses collègues, peut-être que la personne ne serait pas morte.
Ok, bah merci beaucoup pour l'éclaircissement. Enfin, juste, on peut renvoyer aussi au site de la CGT Vinatier où il y a deux articles qui sont parus cet été sur la situation du Vinatier. Un sur la situation sociale et la manière dont le soin se fait, et un autre sur les primes illégales versées aux médecins du privé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pu nous éclaircir un petit peu sur cette nouvelle unité. Et on va... Ouais, excuse-moi.
Oui, bah merci à vous aussi. De nous permettre de parler, de nous exprimer, hein. c'est toujours important.
Et du coup, pour finir, on va vous laisser avec un petit son de punk qui parle de Toscaïès, parce que Toscaïès, ça fait partie justement des gens qui ont montré qu'un autre type d'hôpital était possible, un hôpital plus humain pour accueillir la folie et les difficultés des gens. Voilà, on vous la met pas en entier parce qu'une fois de plus, la marque de fabrique du Canu Info du vendredi étant d'être à la bourre. Vous pouvez retrouver tout ça sur l'internet mondial en tapant Justine, c'est le nom du groupe, et Toscaïès, c'est le nom de ce médecin psychiatre désaliéniste.
Et maintenant, direction l'Europe de l'Est, en Roumanie, où de nombreux citoyens manifestent dans les grandes villes du pays. Alors, c'est en exclusivité ce soir au Canu Info, parce que j'ai regardé les médias, mais ça n'en parle pas. Mais heureusement, nous avons des correspondants de par le monde. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est que les habitants protestent contre le gouvernement et contre la corruption. Il y a un soulèvement assez important qui dure déjà depuis presque une semaine. Là, ils étaient plus de 30 000 ce mardi dans les rues de Bucarest, la capitale. Et ce mouvement populaire a même poussé le premier ministre roumain, Victor Ponta, ainsi que le ministre de l'Intérieur et un des maires de Bucarest à démissionner. Mais alors, d'où est parti ce soulèvement ? Vendredi dernier, la veille de la nuit d'Halloween, plus de 30 personnes sont mortes dans une boîte de nuit de Bucarest suite à un incendie. Il y a une centaine qui ont été gravement brûlées. Et la boîte qui s'appelle Collective a pris feu à cause des effets pyrotechniques qui ont été utilisés durant le concert de cette soirée. Alors, on ne peut pas parler d'un accident puisque le patron de la boîte en question n'aurait pas dû autoriser ces effets pyrotechniques en fait. Le lieu n'était pas aux normes, du coup il n'aurait pas dû autoriser l'accueil de 400 personnes qui étaient là ce soir-là. Puisque normalement la capacité d'accueil de ce club en sous-sol était de 80 personnes. Et du coup, bon, pourquoi ces détails techniques ? C'est qu'en fait, si les Roumains manifestent là en ce moment, c'est parce qu'ils en ont marre des permissions anormales, du manque de contrôle de la part des institutions, et c'est pour ça qu'ils sont en colère. En fait, c'est ce drame qui a fait soulever à quel point la corruption était généralisée en Roumanie. Il s'avère que le patron de cette boîte de nuit a toujours échappé au contrôle et aux législations en versant des pots de vin à la municipalité. C'est une pratique qui est monnaie courante dans le pays, et ce, à tous les niveaux de l'État et de l'administration, public comme privé. Même les politiciens et les partis politiques sont les plus grands adeptes et promoteurs de cette corruption. Alors, est-ce que le départ du Premier ministre va changer quelque chose ? Est-ce que les Roumains vont continuer à manifester, à s'organiser ? Pour illustrer cette info, nous allons vous passer un reportage réalisé par un de nos amis canusiens, un ancien des Canu Info, qui se trouve en ce moment en Roumanie, et plus exactement à Cluj-Napoca, la deuxième ville du pays où les Roumains manifestent en ce moment tous les soirs. Bonne écoute !
On est ici pour protester contre ce régime qui dirige ce pays depuis 1989.
Since 1989 till now, it's a corrupt regime. And because of this, because of the corruption, because of
et parce que à cause de ce régime, à cause de la corruption, des personnes commencent à mourir à différents endroits dans le pays.
In different places of the country.
It's a mixture between sadness.
C'est un mélange entre la tristesse et la colère parce que les personnes corrompues qui ont provoqué ce drame ne sont même pas en prison.
Nothing is happening, you know. This is why. This is
c'est la principale raison qui fait que les gens sont dans la rue aujourd'hui.
Nothing is happening. Nobody's responsible for this shit.
So for you, il y a vraiment un lien entre la corruption et le drame qui s'est déroulé à Bucarest. Pour vous.
What happens in Bucarest, even if it seems a bit far away, you know, when you don't know.
The link is not. Le lien n'est pas si évident quand on ne connaît pas, mais quand on vit dans le pays depuis des années, le lien devient douloureusement évident.
It becomes more and more painfully obvious.
Et quand le lien devient douloureusement évident, tu vas dans la rue et tu exprimes ta colère.
The link is if you're going to build a club.
Le lien, c'est que si tu construis un club, tu as besoin de permissions.
You need the authorities to give you permissions that it's a safe
concernant les normes sanitaires, environnementales, les risques d'incendie, pour tout. Et le problème, c'est que ces permissions ont été données. Et c'est absurde, parce qu'ils n'auraient pas dû les avoir. C'est pour ça qu'on est en colère.
I understand, and that's why everybody now is.
Because somebody.
Ils ont donné une grosse somme d'argent au maire et c'est comme ça qu'ils ont eu les permissions. Donc cette corruption s'étend jusqu'au plus haut sommet puisqu'elle concerne le maire de la capitale qui est aussi lié à nos hommes politiques. C'est ça le lien.
And what are they singing now? I see everybody is jumping around.
Et ils chantent quoi maintenant?
Who doesn't jump doesn't want change.
Ils chantent celui qui ne saute pas, il ne veut pas de changement.
Who doesn't jump doesn't want to change.
So we should jump then, no?
Yes, yes. Yes.
Yeah.
We obviously want
on veut plus de transparence dans notre pays. On veut savoir ce qu'il se passe avec notre argent, avec nos impôts. C'est une accumulation et on devient de plus en plus énervé. Et là, on arrive à un point où on se dit qu'il faut absolument aller dans la rue et exprimer cette colère.
I don't know if this is going to change anything, but I hope so.
Je sais pas si ça va changer quelque chose, mais je l'espère en tout cas. Hier, ce fut une véritable victoire dans les rues contre cette classe politique qui ne s'intéresse pas aux citoyens, qui ne fait preuve d'aucun altruisme, qui ne fait rien de bien. Les gens, et surtout les jeunes, sentent que c'est le moment de forcer ces politiciens à changer. Et ça va changer quelque chose que Victor Ponta ait démissionné ? Oui, mais on ne doit pas lâcher. Si les gens quittent la rue maintenant, ce sont les marionnettes de Ponta qui vont prendre le pouvoir. C'est ça le risque. Il faut maintenir la pression. Ceux contre qui nous avons manifesté il y a 2 ans, 4 ans, peuvent revenir, ou d'autres, de la même classe politique. Tous ceux qui jouent avec la corruption en Roumanie doivent partir. Quelque chose doit changer. C'est un symbole, la démission de Victor Ponta, et ce n'est pas la touche finale.
If it's not the final touch, what will be the
que serait donc
touch?
La touche finale alors?
In my opinion, I think that for Romania should take.
Je pense que la Roumanie a besoin de 10 ans pour que la génération qui dirige le pays change.
Will rule the country will change. When our generation.
Pour que notre génération, qui est née dans le communisme dans les années 80, dirige le pays. Nous sommes une génération d'intellectuels entre 30 et 35 ans. Et quand on aura entre 40 et 45 ans et qu'on dirigera le pays, là les choses vont commencer à changer.
You won't like our honest opinion.
I let you.
Tu veux vraiment savoir ce que je pense, sincèrement?
My main concern today is
that we had three resignations of the people who the protesters from Bucharest yesterday asked.
Trois ministres ont démissionné, comme l'avaient demandé les manifestants de Bucarest. Mais à présent, les gens doivent se demander, on va où à partir de ça?
Where do we go from here on? What are the solutions? How can we implement? Okay, the prime minister is gone. Who made everything?
Okay, le premier ministre est parti. Il faisait de notre vie un enfer. Mais qui va être son remplaçant? Comment cette nouvelle personne peut faire quelque chose de mieux? Qui il va être?
Who will decide who the new guy is? There are a lot of questions that.
Et toutes ces questions, j'ai peur que les gens ce soir, ils ne se les demandent pas.
So you think or those movements?
Donc tu penses que toutes ces manifestations ne vont rien changer à la corruption, à la situation de votre pays? Non, car ces démissions font partie de la stratégie du gouvernement. Dans tous les cas, ils voulaient faire partir ces trois ministres.
They have three people who quit their jobs. They have everything that they wanted in regards for with their demands since yesterday. And now we're here in the streets. I would like to ask you to go.
Je voudrais que tu ailles demander à 20, 50 personnes ce qu'ils veulent faire maintenant. Ils veulent améliorer la situation, mais ils ne savent pas comment. Ils ne proposent pas d'idées.
Their point of view in making things better. That's the problem. Not the
you think then good. Donc sortir dans la rue ne sert à rien.
No.
So why are you going then?
Pourquoi t'es là alors?
To see how the movement is, how the people.
J'essaie seulement de voir comment les gens se comportent. S'ils sont seulement là pour suivre la foule, ou s'il y a quelques individus qui essayent d'organiser un peu ce bazar.
Sadly, till now, we haven't found one.
On n'a toujours pas trouvé ce type d'individu, mais on continue à espérer.
What could we
et qu'est-ce que
do,
vous devriez faire pour améliorer le système roumain?
It should be a collective involvement of all the people here.
On a besoin d'un leader qui représenterait les idéologies des manifestants, qui pourrait vraiment comprendre quels sont les besoins de ces gens. Mais premièrement, ces gens doivent comprendre ce qu'ils ont réellement besoin. On a besoin de meilleurs emplois, d'une meilleure éducation, d'un meilleur système de santé, de ramener nos docteurs en Roumanie. Arrêtez d'enseigner la médecine aux étrangers, pas parce que c'est mal, mais parce qu'on n'a plus que des médecins étrangers. Un étudiant arabe, par exemple, va bien vouloir travailler en Roumanie, mais le Roumain va préférer partir, car nos institutions sont trop mal organisées.
Because they prefer to leave because the system is a mess. They should stop stealing the politicians.
Et les politiciens doivent arrêter de voler.
Everybody steals everywhere, but how much can you steal? How much do you really need? We should tax the churches.
On doit davantage imposer l'église.
Really become an independent state in regards of the church. There's a
Il y a
lot
plein
of
de choses qu'on a besoin de faire et les citoyens doivent commencer à y penser, à agir. Il faut qu'ils créent de nouvelles lois.
They have the power.
Ils en ont le droit. C'est inscrit dans la Constitution. Créer de nouvelles lois et les envoyer au Parlement pour qu'elles puissent être votées.
So they can be voted. But
mais personne ne connaît ce droit car les gens ne sont pas informés. Ils ne veulent pas s'informer et l'État fait également tout pour les en empêcher.
Merci à Pierre pour ce reportage en Roumanie. Alors, très vite, juste pour parler de la répression sur le mouvement boycott des investissements sanctions, BDS, par rapport aux produits israéliens. Alors, il n'y a plus aucun doute possible, le simple appel à boycotter des produits israéliens est devenu totalement illégal en France et sévèrement puni. Deux arrêts de la Cour de cassation du 20 octobre, passés inaperçus en dehors des réseaux militants et des juristes spécialisés, font de la France l'un des rares pays du monde et la seule démocratie où l'appel au boycott par un mouvement associatif ou citoyen pour critiquer la politique d'un État tiers est interdit. Voilà, concrètement, la Cour de cassation a confirmé la condamnation par la Cour d'appel de Colmar de 14 militants du mouvement BDS à 28 000 euros de dommages et intérêts au parti civil et chacun à une amende de 1 000 euros avec sursis. Il leur est reproché d'avoir le 26 septembre 2009 pour les uns et 22 mai 2010 pour les autres, participer à une manifestation dans un magasin Carrefour près de Mulhouse, appelant au boycott des produits en provenance d'Israël. Ils portaient des t-shirts avec le slogan « Palestine vivra, boycott Israël » et distribuaient des tracts aux clients sur lesquels était écrit « Acheter les produits importés d'Israël, c'est légitimer les crimes à Gaza. C'est approuver la politique menée par le gouvernement israélien. » Il n'y a eu aucune dégradation, aucune entrave au fonctionnement du magasin, ni aucun propos antisémite. Le mouvement BDS déploie sa stratégie dans beaucoup de pays, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, etc., au moyen d'appels aux boycotts commerciaux, universitaires ou culturels pour faire pression sur l'État d'Israël. Voilà, mais du coup, en France, c'est interdit de faire ça, quoi. Pour la haute juridiction française, c'est néanmoins un délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance à une ethnie. Non, non. Alors que là, c'était un acte politique envers un État et non pas envers des personnes. Et voilà, bon, je vais faire court, c'est juste que c'est dommage que ce soit, qu'il y ait une forte répression sur des campagnes comme ça qui visent à sensibiliser le monde sur une politique d'un État.
Eh bien, merci pour cette intervention.
Et au doux son de la peau de banane, fruit récréatif s'il en est, nous passons
à l'agenda.
Et voilà.
Il nous reste 3 minutes pour cet agenda et agenda, il est très chargé. On commence ce soir. Alors ce soir, ça se passe dans le 3e arrondissement, rue Victoire. Et il y a une brunch party au local féministe, je répète, rue Victoire. Alors la journée a commencé à midi. Il y avait des expos photos, des lectures, des écoutes d'émissions radio, notamment On n'est pas des cadeaux, nos copains. Et ce soir, à 21h, quiz musical en équipe et apéro jusqu'à au moins minuit. Allez-y, rue Victoire dans le 3e arrondissement.
Dans le cadre du festival Belle Latinas, en fin de semaine prochaine, c'est un festival de littérature sur l'Amérique latine. Il y a un spectacle avec des textes de Galeano, qui est un écrivain uruguayen, qui est l'auteur des Veines ouvertes de l'Amérique latine, qui est un militant qui a été exilé en Espagne. Et donc, ce spectacle allie chronique, poésie, conte, manifeste. Et ces histoires brèves et infiniment juste s'assemblent pour faire entendre ce que le vrombissement des machines du pouvoir a trop souvent et trop longtemps fait taire. Donc c'est un super spectacle qui a lieu le vendredi 13 et samedi 14 novembre à 20h au théâtre Sous le Caillou, 23 rue d'Austerlitz, du coup, c'est en contrebas du Gros Caillou à Croix-Rousse. Et donc il y a d'autres spectacles également cette semaine sur la culture latine.
Et attention, accélération de l'agenda, puisque ce soir, Tunisie, la révolution face au fondamentalisme, bien sûr, c'est à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, Lyon 7e, de 19h à 23h30.
C'est oui, dans le cadre du festival Libertaire qui se tient tout le mois de novembre.
Merde, on va se bouffer la parole. Et demain, journée porte ouverte au LOL, laboratoire ouvert lyonnais, entre 14h et 23h, toujours dans le cadre du festival Libertaire édition 2015.
Et puis la journée porte ouverte au local féministe de la Guy de 15h à 17h, en mixité choisie, meuf, gouine, trans.
Et attention, le pot de rentrée de la CNT anarchiste et islam de 15h à 19h44, rue Burdeau, 18h30, minuit bien sûr.
Oui, et puis le pot d'entrée de la CNT, 18h30, minuit 44, rue Burdeau, Lyon 1er.
On l'a déjà dit, mais c'est bien d'y aller.
Du tout où on en est. Alors peut-être que ce qu'on va faire, c'est vous conseiller de regarder l'agenda sur rebellion.info, puisqu'on n'avait pas encore parlé de rebellion.info. Info aujourd'hui.
Oui, on l'a pas dit, c'est vrai. Bon, ben maintenant on l'a dit, donc voilà.
Et bonne émission, du coup.
Donc c'est la fin. Et maintenant on vous laisse avec
Noise Pollution.